en disant, on avait dit qu'au départ, le protestantisme mettait l'accent sur les églises locales. Donc il y avait dans toutes les églises protestantes une organisation à la base congrégationaliste, c'est-à-dire que la congrégation locale, l'église locale, a une autonomie plus ou moins importante selon les différentes dénominations. Alors, cela a appelé, depuis le congrégationalisme total, comme c'est le cas par exemple d'une église qui précisément porte ce nom, notamment aux États-Unis ou en Église anglo-saxonne, qui s'appelle Église congrégationaliste, c'est-à-dire que ce sont des églises où la communauté est absolument autonome et les différentes communautés locales ont entre elles un certain nombre de liens uniquement fraternels. Mais une congrégation, une communauté ne peut pas intervenir dans les problèmes, dans les affaires d'une autre communauté locale, du moins sans y avoir été invité. Et par conséquent, eh bien, il y a un grand pouvoir qui est donné aux membres de l'Église. Ces derniers, par vote, peuvent intervenir et décider, même éventuellement, sur ce qui est de la doctrine. Alors évidemment, ça donne des choses plus ou moins curieuses. Et il est certain que le congrégationalisme total n'est pas l'éthique. Ça, je crois qu'il faut le souligner très fort. Le système congrégationaliste, en France, est surtout représenté par les églises baptistes, qui, un peu partout dans le monde entier, d'ailleurs, sont congrégationalistes. Mais en France, c'est à peu près... En tout cas, c'est le mouvement qui... est le plus représentatif de ce type d'organisation-là. Alors, les baptistes. Alors, à l'intérieur de chaque congrégation, n'est-ce pas, les membres baptisés ont une voix lors des assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, qui sont convoquées. Et elles élisent un conseil qui prend différents noms selon les congrégations locales. Les églises baptistes, on les appelle généralement conseil des diacres, qui exerce en quelque sorte le pouvoir. Le pasteur n'est que le primus inter pares, le premier entre ses pairs, et il y a... par conséquent, pour lui, enfin, je dirais plus exactement, il est un petit peu le fonctionnaire ecclésiastique de l'Église qui est administré en fait par un véritable conseil d'administration comme une entreprise commerciale quelconque. Alors évidemment, ce système a très très grosses lacunes. La première est le reproche essentiel que nous lui ferons, ça suit pas. Pardon. Ah oui, d'accord. Le reproche essentiel que nous lui ferons, c'est finalement la négation du ministère. Et par exemple, quand on voit la conception qu'ont les églises baptistes du ministère, eh bien, nous nous rendons compte que nous sommes très très loin de la vie publique. Les statuts de la Fédération Baptiste déclare que l'Église locale peut prendre en son sein ou appeler de l'extérieur un homme qu'elle charge d'exercer les fonctions pastorales. Donc, pas question ici d'appel de Dieu, pas question de vocation. C'est l'Église qui décide, n'est-ce pas, de confier à tel homme qui a sa confiance des fonctions pastorales. Alors il est évident que si cet homme-là est véritablement appelé par Dieu, c'est bien, mais il peut se faire, et cela s'est vu, qu'ils ne soient pas appelés par Dieu pour cela. Et on assiste parfois au sein de ces églises à une véritable compétition pour occuper justement le ministère pastoral. On a un certain nombre de gens qui ont des ambitions dans ce domaine-là. Parce qu'en principe, tout le monde peut, en principe encore je dis bien, occuper les fonctions pastorales. Alors évidemment, parfois, la bousculade vaut le coup d'œil. Deuxième chose, n'est-ce pas, les diacres, entre guillemets, je vais vous mettre diacres entre guillemets, qui sont élus par l'Assemblée Générale. Bon. Alors, là, encore une fois, même reproche, ces gens-là sont-ils réellement appelés par Dieu dans ce ministère? Alors, ils sont élus pour 4 ans, pour 5 ans, pour 6 ans, ça dépend. Le nombre varie, mais en général, on en prend 7, parce qu'il y avait 7 dans l'église de Jérusalem. Alors, il y a eu le bel amalgame entre l'institution humaine et puis, finalement, ce qui est biblique. Alors, bon, quelquefois, vous avez des suppléants qui sont là aussi, au cas où il y en avait un, où le quorum ne serait pas atteint. Alors ensuite, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, eh bien tout ça s'est remis sur le tapis, alors on en élit d'autres, et puis il ne faut pas que ce soit les mêmes toujours, parce qu'il faut que tout le monde ait l'occasion d'y passer. Alors évidemment, la direction de Dieu là-dedans, eh bien, elle n'est pas tellement évidente. D'autre part, il y a aussi le fait que, manifestement, un certain nombre de ces gens qui sont élus comme diacres ne sont pas toujours capables d'exercer cette fonction. D'autres en sont, je dirais, totalement à côté de la plaque. Et alors, on assiste finalement au même travers qu'il y a dans une démocratie politique, dans ce sens qu'il y a des courants qui naissent dans l'Église. Alors, une espèce de liste, il y a des listes rivales qui sont proposées. Les amis de Monsieur Untel contre les amis de Monsieur Untel. Et puis alors, quelquefois, pour essayer de conserver l'unité de l'Église, on fait des subtils panachages, et alors on présente une liste ensuite qu'on demande à l'Assemblée Générale d'entrer. Enfin, toutes les combines, toutes les magouilles que vous avez dans la politique des hommes, finalement, vous avez tendance à retrouver ça plus ou moins dans l'Église à ce moment-là. Troisième reproche, c'est le pouvoir exercé par l'Assemblée Générale qui fait que tous ceux qui sont baptisés, parfois même d'ailleurs dans certaines églises baptistes, des gens qui ont quitté l'église depuis des années pour s'établir dans d'autres villes, continuent à être membres de l'église mère et ils reviennent spécialement pour voter aux assemblées générales. Ils disparaissent ensuite dans la nature pendant les 4 ans qui restent à courir jusqu'à la prochaine élection ou jusqu'à l'année suivante quelquefois, pour les plus aînés. Alors vous pouvez tout d'un coup avoir, comme ça, s'il y a une question importante, on rameute tous les membres qui sont dispersés dans la nature, tous les rétrogrades, n'est-ce pas, qui reviennent aussi là, parce qu'on veut faire passer une question ou une motion quelconque, alors tout ce monde-là revient. Alors vous avez là-dedans des gens qui sont déchus, des gens qui sont rétrogrades, des gens qui, pour une fois, sont partis à droite et à gauche, et puis c'est eux qui finalement décident en dernier ressort, à la majorité des voix. Alors, parfois, on a des décisions qui sont carrément antibibliques, surprise. Mais du moment que la majorité des voix en a décidé, eh bien, c'est ainsi. Je vais prendre un exemple concret, récent, dans les études baptistes, les femmes ne prêchent pas, les femmes ne sont pas pasteurs. Il y a depuis un certain nombre d'années, un courant et une campagne qui se fait au sein des églises pour que les femmes puissent accéder au ministère pastoral. Jusque maintenant, dans les congrès baptistes sur lesquels je vais dans un instant, c'est une chose qui a toujours été refusée. Mais ces dames ont réussi à tourner le biais de la manière suivante. L'une d'entre elles a trouvé une église qui, elle, était favorable au ministère des femmes. L'église a voté sur le fait de savoir si oui ou non cette dame pouvait être pasteur. Et en la mesure où une majorité s'est dégagée en sa faveur, la voilà pasteur. Et les autres églises baptistes, le conseil de la fédération ne peut rien dire du moment que l'église locale s'est prononcée. Alors nous avons ici une décision qui est anti-biblique, qui est condamnée par la majorité des autres églises sœurs, mais à partir du moment où la congrégation locale a voté, eh bien, la fête est entérinée. Alors, ça, ce sont justement les grosses lacunes et les gros dangers du congrégationalisme qui fait que, comme en général, la majorité des chrétiens ne sont pas spirituels, il faut quand même voir les choses, ceux qui sont réellement spirituels, ceux qui peuvent vraiment comprendre les choses, même en étant parfois très spirituels, parce qu'il faut, non seulement pour pouvoir avoir des responsabilités de direction, non seulement il faut être spirituel selon les critères de la Bible, et nous savons tous que, par exemple, la Bible dit au sujet des diacres et des anciens, qu'ils soient comme ci, comme ça, etc., et ensuite qu'ils exercent leur ministère s'ils en sont dignes, eh bien, il est utile de dire que ces critères-là ne sont pas respectés dans la plupart des églises congrégationalistes. Parce que là, il y a un mélange entre la vision démocratique humaine, qui sur le plan politique est peut-être le système le meilleur qui soit, on peut être tout à fait démocrate sur le plan politique, ce qui est mon cas, et en même temps, n'est-ce pas, condamner ce type d'organisation pour ce qui est de l'Église, parce que l'Église n'est pas une démocratie, l'Église est une théocratie, c'est-à-dire un organisme qui est dirigé par le Seigneur, par le Saint-Esprit, et par l'intermédiaire, justement, des hommes qu'il a appelés, qu'il a mis à part, qui ont été éprouvés, et qui se sont montrés à la hauteur de la tâche que le Seigneur voulait leur confier. Or, à partir du moment où on donne un vote, un homme ou un membre un vote, eh bien, automatiquement, les décisions importantes de la vie de l'Église sont sujettes à une majorité fluctuante, à une campagne électorale, entre guillemets, à l'intervention de gens peu spirituels, de rétrogrades, de toutes sortes de gens qui vont venir là, et qui finalement vont faire basculer cette majorité dans un sens qui est anti-biblique. Et ce faisant, à partir du moment où une décision sera prise ainsi à la majorité des voix, eh bien le pasteur ne peut plus rien dire. C'est ainsi que je me suis trouvé, par exemple, moi-même, dans une de ces églises-là, contraint d'accepter à la Sainte-Seine des divorcés, des adultères, et finalement contraint, là je me suis gagné, de marier des gens qui n'auraient pas dû l'être. Parce qu'il y avait une décision de l'Assemblée Générale qui avait été dans ce sens-là. Alors, on se rend compte évidemment que là, il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle le congrégationalisme outrancier et total est finalement assez rare dans la plupart des églises protestantes. Et même si la plupart des églises protestantes partent du congrégationalisme, le besoin s'est fait sentir avec le temps de tempérer un petit peu ce congrégationalisme-là. C'est aussi le cas finalement dans les églises baptistes à l'heure actuelle. Alors, le premier pas consiste à fédérer ou confédérer les églises locales qui acceptent de déléguer un certain nombre des pouvoirs de la congrégation à un conseil issu de toutes les églises. Par exemple, sur le plan des églises baptistes, il y a délégation d'un certain nombre de représentants par église au congrès baptiste qui se réunit une fois par an et qui est aussi dépendant, le nombre de ces gens-là est dépendant de l'importance de l'église, on a droit à un délégué par fraction de 50 membres. Alors évidemment, vous avez des églises, c'est tout à fait caractéristique, qui gonflent un petit peu le nombre de leurs membres pour pouvoir avoir des représentants supplémentaires, parce que ces gens-là ont une voix. Et on retrouve le même principe démocratique, en fin de compte, un représentant, une voix, et toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. Et on retrouve la même magouille électorale, évidemment, dans les congrès baptistes, que dans les églises locales. Alors, ce congrès élit un conseil de la fédération, qui lui-même élit un bureau, et ce conseil de la fédération en principe, est l'organisme représentatif de la Fédération, de la Fédération baptiste auprès des autres églises, de la Fédération protestante, des pouvoirs publics, etc. Au début, donc, ce conseil n'est que représentatif. C'est-à-dire que les présidents ne sont, les présidents, vice-présidents, secrétaires et autres, ne sont que des présidents bottiches. Il est bien évident qu'avec le temps, à cause des excès même du congrégationalisme, le conseil de la fédération et surtout le bureau de la fédération est amené à prendre des pouvoirs de plus en plus étendus. Et on assiste à ce paradoxe actuellement dans la fédération baptiste, c'est très intéressant de voir cette évolution-là, qu'on crée des superintendants par région, il y a une régionalisation de la fédération baptiste, avec des responsables régionaux qui visitent les églises, qui supervisent, qui interviennent très très autoritairement dans la vie des églises. C'est vraiment tout à fait étonnant, tout à fait étrange. Et en même temps, n'est-ce pas, pour certaines questions, comme par exemple cette question des femmes pasteurs, eh bien, ces gens-là ne disent rien parce que là, enfin, il y a aussi des dessous autres, n'est-ce pas, qui font que un certain nombre de gens dans le conseil de fédération belge ont acquis à la cour des femmes pasteurs pour un vivre commode, pour avoir la possibilité de ne pas s'opposer. Enfin, on ne voit pas ce qu'ils ne veulent pas voir, toute la politique humaine. Alors, c'est pourquoi là, il y a une évolution qu'on trouve finalement à peu près dans toutes les églises. Cette évolution-là, elle était beaucoup plus poussée déjà dans les églises réformées et luthériennes, parce que dès le départ, ces dernières étaient, avaient un congrégationalisme tempéré. C'est ce qu'on appelle le système presbytérien synodal, vers lequel les baptistes actuellement sont en train d'évoluer aussi, d'ailleurs. Les quelques exemples que j'évoquais là, le même. Alors, c'est tout simplement ce système où l'église locale a des pouvoirs étendus, mais délègue un certain nombre de ces pouvoirs à des synodes, à des consistoires. Bref, nous avons vu tout ça la dernière fois, en ce qui concerne l'organisation de l'Église réformée en consistoire, en région, et puis ensuite avec le Conseil national, mais qui évidemment, lui, a beaucoup plus de pouvoir que le Conseil de la Fédération baptiste, par exemple. Parce que là, il y a un réel pouvoir des présidents, il y a un réel pouvoir des présidents de région, il y a un réel pouvoir des présidents de consistoire, qui peuvent intervenir dans la vie des églises, qui peuvent, lorsqu'il y a un problème, eh bien trancher, servir d'arbitre, dans la Fédération baptiste aussi, mais l'arbitrage doit être demandé par les deux parties. Par exemple, s'il y a litige entre deux églises, eh bien, le conseil de la Fédération ne peut intervenir que si elle est saisie de ce problème par les deux églises qui sont d'accord pour pouvoir, justement, demander l'arbitrage de la Fédération. S'il y a un problème à l'intérieur d'une église, et que, par exemple, les deux parties opposés sur une certaine question, il faut que les deux parties soient d'accord pour demander l'arbitrage de la Fédération baptiste pour que cette dernière intervienne. Dans l'Église réformée et l'Église luthérienne, c'est différent. Le Conseil ou les présidents de consistoire ou les présidents de région, qui sont finalement ceux qui ont actuellement le plus de pouvoir dans l'Église réformée, peuvent d'eux-mêmes prendre l'initiative d'intervenir s'ils discernent tel et tel problème, par exemple, dans une église particulière, dans une église locale. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser des problèmes aussi, parce qu'évidemment, si ces gens-là étaient spirituels, alors ce serait parfait. Si on avait affaire à des présidents de région qui étaient des hommes de Dieu véritablement, alors là, évidemment, ça éviterait de nombreux problèmes qu'on trouve, par exemple, dans la Fédération baptiste, que nous l'évoquions un instant seulement. Si ces gens-là ne sont pas spirituels, si ce sont des libéraux, par exemple, alors ce sont d'autres problèmes plus graves encore que ceux qu'on trouve dans l'Église baptiste qui peuvent se produire. Et je vous citerai simplement un cas. Lorsque, par exemple, il y a un certain nombre d'années de cela, un pasteur réformé ici en Bretagne avait été baptisé du Saint-Esprit, et ensuite, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, avait découvert le baptême d'eau, et donc lui-même avait été baptisé d'eau, et ensuite avait refusé de baptiser les enfants pour ne baptiser que des adultes. Son président de région était descendu, l'avait sommé de baptiser des enfants, et comme il refusait de baptiser des enfants, il avait tout simplement mis dehors, sans autre forme de procès. Alors, vous voyez qu'effectivement, ce pouvoir de la hiérarchie, parce que c'est une véritable hiérarchie qui se crée alors, peut être redoutable si cette hiérarchie n'est pas, justement, fondée sur les choses de Dieu et sur la parole de Dieu. Et beaucoup de pasteurs protestants, beaucoup de pasteurs réformés, pardon, qui ont voulu vraiment marcher avec Dieu, que ce soit sur les questions du baptême, du baptême du Saint-Esprit, ou sur d'autres problèmes, n'est-ce pas, ont eu maille à partir avec leur hiérarchie, qui, elle, était une hiérarchie qui ne voyait pas les choses dans une optique biblique, et ont été soit contraints de se soumettre, soit contraints de se démettre. Certains d'entre eux se sont soumis et ont perdu, par conséquent, la bénédiction qu'ils avaient rencontrée, qu'ils avaient trouvée. D'autres se sont démis et ont quitté donc l'Église réformée, et d'autres ont contribué un certain nombre, pour ne pas les citer, par exemple, les frères Schinkel, Ramseyer, et tout ça, c'est ce qui leur est arrivé avec leur hiérarchie respective, Michael. Alors, voilà en gros les deux systèmes qu'on trouve dans le protestantisme français en ce qui concerne l'exercice de l'autorité. Maintenant, ce qui caractérise également l'Église réformée luthérienne, c'est que pour ce qui est de la vision du ministère pastoral, on retrouve à peu près la même chose, il n'y a pas de vision du ministère. Le pasteur est un professionnel de l'Évangile, c'est comme ça qu'ils le définissent, quelqu'un qui a une formation théologique, notion qu'on ne trouve pas chez les baptistes. Pour les baptistes, il vaut mieux avoir une formation théologique si on peut, mais ce n'est pas obligatoire. C'est déjà beaucoup plus biblique. Encore qu'on pourrait nuancer, parce que vous avez aussi, à ce moment-là, le premier venu qui peut aussi se prétendre au ministère pastoral, et ça donne parfois des rôles de choses. Mais le pasteur pour les réformés, c'est quelqu'un qui a une formation théologique. C'est d'abord un théologien. Donc quelqu'un qui... C'est un petit peu que la vision juive du rabbin, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui peut servir de guide, de conseiller sur le plan biblique et sur le plan théologique. Dans la mesure où maintenant, eh bien, de nombreux laïcs aussi ont accès à une formation théologique poussée, eh bien, on se pose aujourd'hui, en milieu réformé, la question du ministère pastoral tout court. D'autant que le nombre des pasteurs diminue considérablement parce que les perspectives sont tellement passionnantes dans l'Église réformée que beaucoup de jeunes, il y a de moins en moins de jeunes protestants qui ont envie d'entreprendre des études de théologie. Et ceux qui sortent des écoles de théologie n'ont pas du tout envie d'être pasteurs de paroisse, ils font toutes sortes de choses, des ministères de recherche et tout ce qu'on voudra. Si bien que les laïcs, comme on dit, dans l'Église réformée, sont amenés de plus en plus à prendre des responsabilités. Si bien que se pose aujourd'hui, en milieu réformé, la définition du ministère pastoral. Il y a dernièrement un synode national qui s'est posé la question du ministère pastoral, et finalement, on a assisté à une confusion absolument délicieuse, dans ce sens qu'il a été impossible de définir ce qu'était un pasteur. Si bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus du tout ce que c'est un pasteur en milieu réformé. Ce qui pose des problèmes aussi sur le plan du dialogue œcuménique, parce que s'il y a un point sur lequel les catholiques sont sensibles, c'est la question du ministère. Nous avons vu pourquoi quand nous avons étudié le catholicisme, parce que le catholicisme, lui, est église, se considère comme église par sa structure, par sa hiérarchie. C'est le ministère qui est constitutif de l'église, même si Vatican II a nuancé ça avec la notion de peuple de Dieu. Mais l'idée que le ministère est constitutif de l'église est quand même très très fort au milieu catholique. Et avec maintenant la pagaille qui existe en milieu protestant en ce qui concerne le ministère, les catholiques ne s'y retrouvent plus. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est pour vous un ministère? Avec qui allons-nous dialoguer? Quels sont nos alter ego en milieu protestant et qu'est-ce qu'ils représentent? Et à ces questions-là, qui avaient été posées presque ipsissima verba par l'évêque bourgeois, en 1975 à l'Assemblée Générale du Protestantisme, les réformés et luthériens, et même les baptistes, ont été incapables de fournir une réponse. Par contre, la réponse est venue du côté catholique, avec la fameuse note des évêques sur l'Eucharistie, disant, eh bien, puisque c'est comme ça, puisque les protestants sont incapables de nous dire ce que c'est qu'un ministère, eh bien, aussi longtemps qu'ils ne se seront pas mis au clair sur cette question-là, nous refuserons de reconnaître la validité des eucharisties protestantes communistes. Et la conséquence logique de cela, c'est que nous ne reconnaissons plus, nous catholiques, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, nous ne reconnaissons plus que les églises protestantes sont des églises. Ce sont des groupes de chrétiens, ce ne sont pas des églises. Et ça, je l'ai entendu de la bouche même de l'abbé Poirier, donc l'adjoint du cardinal Dugon. Alors voyez-vous, ça va très très loin justement cette question des ministères. Et c'est pourquoi finalement, notre vision du ministère est très rassurante pour les catholiques d'une certaine manière, même si elle met en question le système, est beaucoup plus rassurante pour eux que la vision réformée ou même baptiste, parce que elle leur montre qu'il y a une structure, qu'il y a une vision finalement aussi de la vocation, de l'appel, ce qui est très fort chez eux, qui reste très fort. La notion d'un appel de Dieu, d'une mise à part, d'une vocation. Et sur ce plan-là, il est certain que le dialogue avec les catholiques, pour ce qui nous concerne, est beaucoup plus facile. Alors, ça nous amène aussi à une autre conclusion, c'est que nous nous rendons compte que à partir du moment où il y a structure, il y a un grand danger qui est la structure qui devient presque inévitable à partir du moment où un mouvement religieux prend une certaine importance. On ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi, bien sûr. Donc, la structure qui est là pour être quelque chose qui est au service de l'Église, eh bien, Dieu devient très vite un carcan. Si on ne prend pas garde, conduit tout de suite à une déviation. Et ça, c'est typique. La structure la plus souple que je connaisse, c'est la structure des baptistes. Or, même cette structure-là devient donc étouffante et tue la vie de l'esprit. On va prendre deux autres exemples pour montrer cela. Le premier, c'est celui des apostoliques, l'Église apostolique, qui est une des composantes de la Fédération protestante de France, même si c'est une toute petite Église. Or, l'Église apostolique est une Église pentecôtiste, et c'est elle qui a poussé le plus loin la réflexion sur les ministères, telle qu'on la trouve dans le Nouveau Testament, notamment dans Éphésiens 4. Et en particulier, les apostoliques sont les seuls à avoir affirmé qu'il pouvait exister aujourd'hui des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs, comme cela est écrit dans Éphésiens 4. Maintenant, une chose est de l'affirmer, autre chose est de le vivre. Et là, précisément, l'Église apostolique a institué des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Seulement, à partir de cette mise en place, n'est-ce pas, d'une structure qui se voulait au départ spirituelle, qui était basée sur une reconnaissance de l'élection, une reconnaissance de l'appel particulier reçu par chacun, qui était examiné par les églises, par les ministères, etc., eh bien, c'est créer une structure qui rejoint finalement une structure humaine. Et qui étouffe aussi un esprit. Les pentecôtistes des assemblées de Dieu étaient très conscients de ce problème. Et quand on écoute, par exemple, les prédications des premiers pentecôtistes, eh bien, on remarque qu'ils fulminaient très fort contre justement les structures. Il faut dire qu'ils avaient été particulièrement sensibilisés à ce problème, car beaucoup d'entre eux avaient vécu ce que j'évoquais tout à l'heure en ce qui concerne certains pasteurs réformés. La plupart d'entre eux étaient membres des églises historiques et ils avaient fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit à l'intérieur de leurs églises historiques. Et parce qu'ils avaient fait ces expériences-là, et parce qu'ils voulaient vivre la vie de l'Esprit, la plupart d'entre eux avaient été chassés de leurs églises par les structures. Alors il est évident qu'ils étaient tout à fait sensibilisés justement à ce problème des structures qui étouffaient la vie de l'Esprit. Et c'est pourquoi, par exemple, les assemblées de Dieu jusqu'à nos jours, dans les France et un peu partout dans le monde, sont des églises qui sont très très congrégationalistes au départ, mais qui elles aussi ont un système semi-synodal, dans ce sens que se rassemblent des conventions régionales, dans deux secteurs ils appellent, conventions régionales et conventions nationales, qui traite finalement des grands problèmes. Et là aussi, on voit se mettre en place finalement une structure qui étouffe la vie de l'esprit. Et cette structure-là, nous en avons été victimes en son temps. Et c'est à cause justement de cette structure étouffante que nous étions nous-mêmes sortis des assemblées de Dieu, quand ces derniers nous avaient sanctionnés pour être entrés dans la fédération protestante. Alors, ceci veut dire qu'il n'existe pas de système idéal sur le plan humain, mais que l'important, eh bien, c'est la vie de l'esprit. Aussi longtemps qu'on vit la vie de l'esprit, automatiquement vont se mettre en place des structures qui sont celles de Dieu. Car Dieu va faire surgir le ministère, Dieu va faire en sorte qu'il soit reconnu comme tel par ceux qui marchent vraiment avec lui. Dieu va faire en sorte que autour de ces ministères apparaissent des anciens et des diacres. Mais à partir du moment où l'on perd cette vie d'esprit, ou des ambitions humaines, ou des questions de préscience, de jalousie, de convoitise naissent, automatiquement va se mettre en place, même à partir d'une structure qui était biblique, une structure humaine. Et quand on a un peu d'habitude, comme c'est mon cas, de voir comment les manœuvres de manipulation des uns et des autres, de préscience, etc., chacun essayant de se pousser du coude pour essayer de prendre la place. Enfin, c'est amusant parce qu'on retrouve là les traits de la nature humaine, et en même temps c'est attristant parce qu'on se rend compte que des choses comme ça ne devraient pas avoir lieu, ne devraient pas avoir place dans l'œuvre de Dieu. Et finalement, c'est extrêmement difficile d'échapper à cette aspiration, à ce vertige du pouvoir. Et là, je crois que nous retrouvons ce que la Bible nous dit du danger du pouvoir, que celui qui veut être grand au milieu de vous, disait Jésus, soit le plus petit de tous, ainsi que ne soit comme celui qui sert, parce que finalement, il y a, à partir du moment où l'on a pouvoir, il y a un vertige qui se crée, celui de se considérer, comme l'avait fait Saül, comme grand à ses propres yeux. Et plus on s'élève dans les échelons de la hiérarchie, plus évidemment ce vertige est grand. Et il faut vraiment être un saint homme pour pouvoir y résister. Il y en a, heureusement, il y en a qui résistent, mais c'est assez rare, et finalement, pour arriver aux échelons les plus élevés, eh bien, il est bien rare que l'on y arrive simplement par l'envergure et par la valeur spirituelle de l'homme, mais plutôt par le fait qu'on a un petit peu joué des coudes aussi, et qu'on a fait des concessions aux uns, on a fait des concessions aux autres, on a été un petit peu l'homme du consensus, et ce qui se crée dans les appareils de l'Église, toujours, c'est justement un consensus. Un consensus pour ménager telle et telle susceptibilité, telle et telle tendance, telle et telle vision. Alors finalement, on terra telle et telle de ses convictions pour pouvoir être appuyé par telle ou telle tendance, etc. Et petit à petit, bien, c'est la déviation. La structure conduit le mouvement religieux à la déviation. Et si les mouvements religieux dévient, automatiquement, c'est à cause des structures. Et quand on prend finalement l'exemple de l'Église catholique, qui bien entendu est l'Église qui est la structure la plus forte, qui par conséquent est aussi celle qui est la plus déviée, eh bien, on comprend facilement ces déviations. Et je crois que pour comprendre le danger des appareils d'Église, il suffit de lire le livre de Galieux, Au nom de Dieu, la manière dont le pape Jean-Paul Ier a été assassiné au Vatican, et toutes les magouilles, et toutes les influences de pouvoir, les querelles de pouvoir qu'il y a justement dans à l'intérieur du Vatican. Alors évidemment, dans des petits mouvements religieux comme les églises protestantes de France, automatiquement, évidemment, on n'assistera pas à des problèmes de cet ordre-là, parce que, évidemment, les enjeux sont beaucoup moindres. Mais tout de même, l'esprit de la chose, l'état d'esprit s'y retrouve. Et c'est pourquoi, eh bien, je disais tout à l'heure, l'idéal, c'est de garder une grande autonomie. Finalement, ça a été ce à quoi nous nous sommes ralliés, sur le plan local, mais en même temps, avec une structure spirituelle forte, qui est tout à fait dissociée, alors, de ce qui est requis par la loi des hommes, loi à laquelle nous avons à être soumis, c'est-à-dire la loi des hommes considère les associations cultuelles, c'est-à-dire les églises, comme des associations quelconques, en fin de compte, qui doivent être administrés par un conseil d'administration élu, etc. Bon, eh bien cela, nous le faisons parce que la Bible nous dit d'être soumis à la loi des hommes, mais il est certain que ce ne sont pas ces instances-là qui exercent l'autorité dans l'Église. Il n'y a absolument pas télescopage entre les instances qui sont représentatives devant la loi des hommes et finalement ce qui est le choix de Dieu. Donc, grande autonomie avec structure spirituelle très forte qui nous amène à rechercher constamment une direction de l'esprit en toute chose. Et puis deuxièmement, insertion très grande dans l'Église universelle, mais par des contacts qui sont spirituels, par l'intermédiaire de la communion fraternelle, la communion avec les ministères, etc. Et ceci est absolument essentiel, parce que autrement on tombe aussi dans le congrégationalisme outrancier auquel je faisais allusion tout à l'heure. Il est évident qu'une église locale, même la meilleure, eh bien, peut dévier. Et si elle a le privilège d'être en contact avec d'autres églises, même si ces églises ne sont pas absolument identiques, même si parfois il y a des divergences importantes, eh bien, le fait d'être en contact avec d'autres églises constitue une interpellation constante et une nécessité permanente de remise en question. Alors, pour ce qui nous concerne, par exemple, cette insertion se fait à différents niveaux. Elle se fait au plan local par l'œcuménisme, qui est aussi une forme justement pour nous de nous laisser de dialoguer avec les autres tendances du christianisme, souvent avec des tendances dont nous ne partageons pas les vues sur beaucoup de points. Mais dans la confrontation, dans le dialogue, n'est-ce pas, il y a une interpellation. Et souvent, nous laissons parfois mettre en question, disons, enfin, dans le fond, est-ce que notre manière de voir est juste? On est amené à préciser un certain nombre de choses, à rechercher dans la Bible, à affiner un certain nombre d'options qui sont les nôtres, etc. Parfois même de changer un certain nombre de choses. Deuxième inscription, c'est évidemment avec les églises qui nous sont les plus proches. Et puis, en fin de compte, sur le plan national, la Fédération protestante est pour nous aussi un lieu d'insertion dans l'Église universelle. Un lieu où nous ne cherchons absolument à exercer aucun pouvoir, aucune influence, ce qui nous donne une très très grande liberté. Et c'est ça qui est extrêmement précieux, parce que les appareils d'Église, quand on entre dans un appareil d'Église, on aliène souvent sa liberté. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on aliène sa liberté. Mais précisément, ce qui nous avait été donné par le Seigneur en son temps, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était surtout dans ce sens-là, c'était cette vision des temples d'Abraham. Vous vous souvenez, quand nous parlions des temples d'Abraham, la nécessité donc d'être dedans et en même temps à l'écart. Eh bien, c'était cela. À l'écart pour garder sa liberté, mais dedans pour ne pas être coupé non plus des autres et ne pas risquer de courir le risque de dévier dans nos propres pensées. Pour pouvoir nous confronter aux autres, pour pouvoir nous laisser interpeller par les autres, tout en les interpellant aussi très fortement en ce qui nous concernait, bien sûr, mais en même temps accepter d'être interpellé par eux. Donc, ça nous permet, par exemple, la Fédération protestante, d'avoir une très très grande liberté, et en même temps d'être dans une étude fraternelle et dans un dialogue qui se veut aussi extrêmement fraternel, parce que dégagé justement de tout intérêt humain. Et puis ensuite, des rencontres comme par exemple la rencontre de Versailles, où se retrouvent alors là toutes les églises issues du bois du monde protestant engagées dans le mouvement charismatique, très différentes les unes des autres. Il y a en particulier des gens qui sont très pro-romains, tels par exemple les frères qui sont intervenus à Jérusalem 84 dans le fameux film qu'un certain nombre d'entre vous ont vu. Et que nous interpellons parfois très très vigoureusement, mais qui nous interpellent aussi. Pas toujours pour que nous changions notre manière d'être, souvent nous n'acceptons pas leur, leur interpellation, mais elle nous oblige à nous interroger, elle nous oblige à nous mettre en question, elle nous oblige, comme le disait Luc dans, au début de son évangile, à vérifier l'authenticité des enseignements que nous avons reçus, que nous professons. Alors, ce sont des choses qui sont extrêmement précieuses à ce niveau-là, évidemment qui tiennent peut-être un petit peu aussi de la vocation que la nôtre, mais en tout cas qui sont pour nous ce qui nous est apparu comme étant la chose la meilleure. Je ne sais pas si on peut dire que tout le monde devrait être comme cela, je n'irai pas jusque-là parce que c'est aussi extrêmement contraignant et extrêmement exigeant par bien des aspects, mais il est certain que c'est la position qui, tout en étant extrêmement difficile, parce qu'on a toujours la tendance, on peut toujours basculer dans un excès ou dans un autre, et c'est une ligne de crête très très ténue, c'est la corde raide constamment, mais c'est ce qui nous permet à la fois d'avoir cette très très grande liberté, liberté donc de vivre authentiquement l'Évangile, ce qui est notre but premier, notre but essentiel, tout en étant profondément inséré dans l'Église universelle, tout en étant vraiment proche de nos frères, à la fois donc pour une confrontation salutaire pour nous, et en même temps aussi pour une interpellation qui se veut salutaire aussi pour eux. Parce que nous pouvons aussi parfois leur poser des questions extrêmement douloureuses, parce que justement étant en dehors, eh bien, nous avons un recul que parfois eux n'ont pas, dans insérés qu'ils sont et pris qu'ils sont dans leurs appareils d'église, dans le système d'église, dans le consensus dans lequel ils baignent très souvent sans même s'en rendre. Alors voilà, si vous voulez, pour ce qui concerne toute cette question de l'organisation. Maintenant, très rapidement, le culte. Eh bien, le propre du protestantisme, c'est de privilégier la parole. Au centre du culte protestant, il y a la prédication de la parole. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les églises protestantes, quelles qu'elles soient. Maintenant, la forme que prend le culte varie évidemment en fonction des différentes tendances du protestantisme. Bien, je ne m'arrêterai pas évidemment sur la forme du culte évangélique, parce que je pense que nous sommes tous très au fait là-dessus. Je prendrai simplement deux formes de culte qui nous sont peut-être moins familières, le culte luthéro-réformé, et puis ensuite une autre forme de culte sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Le culte luthéro-réformé privilégie vraiment la parole. Alors, il y a une petite différence entre les luthériens et les réformés à ce niveau-là. Dans ce sens que les luthériens ont conservé la décoration intérieure propre aux églises catholiques, par exemple la présence d'un autel pour la célébration de la Sainte Cène, laquelle est célébrée avec du pain azyme, l'hostie si vous voulez, exactement comme les catholiques. Il n'est pas rare de trouver dans nombre d'églises luthériennes, y compris en France, mais surtout en Allemagne et encore pire dans les pays scandinaves, des statues, des peintures représentant le Christ, les scènes de la vie du Christ, etc., toutes choses que la réforme calviniste a banni des églises qui sont beaucoup plus dépouillées, beaucoup plus proches évidemment de ce que sont nos églises évangéliques. Encore que, dans les pays scandinaves, les églises évangéliques, elles aussi, sont décorées avec des peintures représentant la vie du Christ. Par exemple, si vous allez dans une église pentecôtiste en Suède, vous serez choqué de voir partout des représentations du Christ digne de ce qu'on peut trouver dans les églises catholiques, parfois du plus mauvais goût. Mais il est évident que dans les églises réformées, calvinistes, ce genre de choses est totalement banni, est totalement exclu, de même que, évidemment, dans les églises presbytériennes d'Écosse et du monde anglo-saxon. Mais ce que les églises luthéro-réformées ont en main, dans la célébration du culte, c'est la liturgie. La liturgie, toutes les églises en ont. La liturgie, ça veut tout simplement dire l'ordre du culte. Et c'est évident qu'il y a toujours un ordre dans le culte. Les pentecôtistes sont les seuls à prétendre ne pas avoir de liturgie, ce qui est absolument faux. Ils s'abusent totalement. Et pour se prouver à eux qu'ils n'ont pas de liturgie, ils changeront l'ordre du culte. Par exemple, il n'est pas rare de voir dans certaines églises pentecôtistes un dimanche, le pasteur commençait par la Sainte-Cène, puis terminait par la prédication, et puis le dimanche suivant, faire l'inverse, uniquement pour le plaisir de dire qu'il n'a pas de liturgie. N'empêche qu'il a quand même sa liturgie, qu'il a rien à changer ce dimanche-ci, sa liturgie, pour en adopter une autre. Je pense qu'il faut bien qu'il ait une liturgie. Alors, c'est vraiment stupide comme conception. Alors, il est évident que, pour une fois, chaque église a une liturgie. Évidemment, cette liturgie est plus ou moins souple, selon les églises. Évidemment que dans les églises évangéliques, la liturgie est beaucoup plus souple que dans les églises du terreau réformé, où elle est au contraire très très codifiée. Le but était tout simplement d'éviter aussi un certain nombre de débordements qu'on peut connaître dans certaines églises évangéliques, où on entend parfois des choses absolument aberrantes, un certain nombre de frères parfois prier d'une manière qui ne sont pas toujours très très bibliques, pas chez nous bien sûr, mais dans certaines églises, par exemple chez les gitans ou des choses comme ça, c'est certain qu'un théologien parfois dans ces églises-là a les oreilles un petit peu... Alors pour éviter ce genre de choses, les réformateurs ont imposé des prières qui sont absolument bibliques, qui sont absolument conformes à la doctrine. D'où, par exemple, ce qui fait l'unité du monde anglican et épiscopal dans le monde anglo-saxon, le prayer book, le livre de prière. Il y a un livre dans lequel sont contenus un certain nombre de prières qui ont été composées par des théologiens. Alors, elles sont parfaitement orthodoxes, ces prières-là, vous n'avez pas de problème de déviation. Et on ne peut prier dans les offices anglicans que ces prières-là. On n'a pas le droit, par exemple, d'avoir des prières spontanées, comme c'est le cas, évidemment, dans les églises évangéliques. Dans les églises luthéro-réformées, on ne va pas faire cela, mais si l'officiant a la possibilité d'improviser une prière, il est recommandé tout de même qu'il ne déroge pas des prières qui sont imposées par la liturgie. Alors, il y a différentes liturgies qui sont proposées. Parfois, ça peut varier en fonction des époques de l'année, et souvent, et de plus en plus, dans les églises luthéro-réformées, on a tendance à suivre le calendrier liturgique de l'Église catholique, avec les différents temps, l'Avent, le Carême, le temps de Pentecôte, je crois que c'est les trois grandes époques de l'année. Alors, les prières vont quelque peu varier en fonction évidemment de ces temps de l'année. Parfois, alors, même chose pour les cérémonies, mariage, baptême, enterrement, tout ça, vous avez des prières qui sont tout à fait codifiées, qu'on apprend très vite par cœur, bien sûr, même parce que vous en avez que 3 ou 4 exemplaires qui reviennent chaque fois. Alors, un culte réformé commence par la salutation. Et le chant d'un psaume. C'est tout à fait intéressant de voir que, eh bien, on continue à chanter au XXe siècle les psaumes de Clément Marot du XVIe siècle, et puis des psaumes du même type. Alors, je n'ai rien contre les psaumes de Marot, la musique du XVIe siècle est très belle. Mais. Ce que je veux souligner là, c'est l'incapacité dans laquelle sont ces gens de sortir de ce cadre-là. Ce serait considéré comme hérétique. Et l'an dernier, et il y a quelques années de ça plutôt, quand on a éprouvé le besoin dans les églises luthéro-réformées de revoir l'hymnologie, et que par conséquent a été mis en chantier un nouveau recueil de chants à l'usage de l'église luthéro-réformée qui devait s'appeler Nos cœurs te chantent, et qui d'ailleurs avait l'ambition d'être le livre de chants de toute la fédération protestante, de toutes les églises de la fédération protestante, eh bien finalement, on prenait les mêmes, on recommence. Il ressemble comme un frère jumeau aux louanges et prières dont on voulait justement sortir. On a ajouté ça et là, quelques chants, mais toujours sur les mêmes mélodies, sur le même... Et c'est là qu'on voit justement la puissance de la tradition. La tradition ecclésiastique, c'est quelque chose d'incroyable. Et je me souviens d'un frère qui avait assisté justement à une réunion de cette commission d'hymnologie, qui voyait un des jeunes pasteurs qui était responsable de cette publication du No Coeur de Chant, un gars qui était, c'était quelqu'un de cela, avait les chevelus comme c'était la mode à cette époque-là, tout à fait le type du gars de mai 68, là, complètement débraillé, etc. Plutôt, on aurait plutôt vu avec une guitare en train de gratter et chanter du rock. Mais qui était là, qui disait non, ce qu'il faut, c'est revenir au psaume du 16e, n'est-ce pas? Il n'y a que ça qu'on peut chanter avec les cultes, on ne peut pas sortir de ça. C'est vraiment absolument aberrant. Évidemment, je ne dis pas, moi, il s'en fout qu'il fallait tomber dans le fossé et faire du rock dans l'église, comme ça se fait là de plus en plus dans l'église évangélique. Mais entre les deux, il y a quand même place pour une certaine variété. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter les psaumes du 16e, il y en a qui sont magnifiques, que nous chantons nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais rester uniquement à cela, c'est certain que ça fait quand même un peu anachronique, quoi. Alors, donc, chant de psaume. Ensuite, il y a un moment de pénitence. Dans ce sens que l'officiant lit soit les 10 commandements, soit un résumé de la loi. Les deux premiers commandements, le sommaire de la loi, tel que Jésus le dit au docteur pharisien, soit quelques exhortations de Paul. Voilà. Et ensuite, après avoir lu cette loi, il dit ceci, en face de cette loi qui nous condamne, mes frères, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Suit une prière pénitentielle qui se termine par l'annonce de la grâce de Dieu et par l'absolution. Voyez-vous, on est quand même ici très proche encore du schéma catholique. C'est une liturgie qui remonte à l'époque du XVIe siècle, à l'époque des réformateurs, qui était encore très très marquée justement par le catholicisme. Et c'est formidable de voir que des siècles après la réforme, on n'est pas encore réussi non plus à se dégager, n'est-ce pas, de cela. Alors évidemment, la démarche est tout à fait bonne. Il est certain qu'il est tout à fait bon, au moment où nous sommes présents devant Dieu pour le culte du dimanche matin, de faire un bilan et de se dire des enfants où j'en suis, de demander le pardon de Dieu, etc. Mais ce qui est difficilement supportable au bout d'un temps, et quand on a vécu dans ce cadre-là, eh bien, comme c'était mon cas, on a pris conscience d'une manière très forte, n'est-ce pas ? C'est cette répétition des mêmes litanies, des mêmes formules, etc., qu'on connaît par cœur et que finalement sont totalement vidées de leur signification et de leur sens au bout du temps. Alors, c'est quelque chose qui devient mécanique au bout d'un temps, et on entre vraiment dans ce que Jésus appelle la tradition, qui est condamnée par exemple au niveau des pharisiens. Donc, suit la confession de foi, le symbole de Nicée, ce qui m'a surpris d'ailleurs, parce que jeudi dernier, ce symbole de Nicée, je le connaissais évidemment par cœur, puisqu'il était récité chaque dimanche dans l'église réformée à laquelle j'appartenais. Et quand il a été proposé dans la soirée œcuménique, c'était le symbole de Nicée, donc j'ai eu aucun problème. Évidemment, ce n'est pas la version réformée qui a été évoquée ce soir-là. Enfin, soit. Vient ensuite la prédication, puis la prière d'intercession et l'assemblée ensuite est renvoyée après une bénédiction finale. Non, il n'y a pas Saint-Cène. La Sainte-Cène ne se célèbre pas d'une manière régulière dans les églises luthéro-réformées. Et encore une fois, le culte est tout entier centré autour de la parole, uniquement de la parole. Après la prédication vient la prière d'intercession. Et tout ça est entrecoupé de ce qu'on appelle des chants spontanés, ainsi appelés, parce qu'au général, ils ne sont pas spontanés du tout. Vous avez la liste des spontanés qui est indiquée sur une espèce de tableau et sur un signe de l'organiste en général, tout le monde part Et puis ensuite, il y a des chants qui... c'est les mêmes tous les dimanches. Ils changent uniquement en fonction du temps ecclésiastique, c'est-à-dire de l'Avent, du Carême et de du temps de l'Église. Et puis alors ensuite, il y a en général, outre le psaume, qui varie d'un dimanche à l'autre, vous avez deux autres chants qui peuvent varier aussi, qui sont tirés du recueil des Nocturnes de chante aujourd'hui. Alors, Nocturnes de chante est loin d'avoir fait l'unanimité d'ailleurs. Et par exemple, il y a la région Rhône-Alpes qui a publié un recueil de chants renéotypés de son cru, qui est diffusé d'ailleurs dans bien des églises en dehors de la région Rhône-Alpes. De temps en temps, vous avez la célébration de la Sainte. Alors ça, c'est un petit peu un événement. Les réformateurs interdisaient de prendre la Sainte-Seine plus de 2-3 fois par an. En général, on apprenait à Noël, à Pâques, et puis un troisième dimanche dans l'année. Pourquoi ? Parce que, il ne faut pas en rire, parce que je crois que la démarche était même si on ne la partage pas, était quand même assez fondée. Dans ce sens que on ne pouvait pas s'approcher de la table sainte d'une manière routinière, d'une manière habituelle. Et les réformateurs prenaient très au sérieux l'avertissement de Paul que chacun s'examine soi-même, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et ils pensaient qu'on ne pouvait s'approcher de la table sainte qu'après une longue préparation. D'où le fait que l'on ne prenait la Sainte Seine que dans les grands temps, les temps forts de l'année ecclésiastique où on avait été préparé, par exemple à Noël, où il y avait eu toute la préparation de l'Avent, à Pâques, où il y avait eu toute la préparation du Carême, et je crois que la troisième, ça devait être Pentecôte, justement. Pentecôte aussi, qui était préparée par un certain nombre de prédications, et c'était comme une ascension qui allait justement vers le moment où l'on prenait la Sainte-Seine. Dans les églises réformées actuelles, on a assoupli évidemment cette règle. Mais, en général, on prend la Sainte-Seine, soit une fois par mois, soit une fois tous les deux mois. Ça varie selon les églises. Dans ce cas-là, il y a une liturgie particulière. La Sainte-Seine se célèbre après la prédication et il y a toute une liturgie qui prépare justement à la Sainte-Seine. Liturgie qui n'est pas d'ailleurs qui est assez belle. C'est pas dans la liturgie réformée, c'est celle qui est la mieux réussie. Elle est beaucoup inspirée de la Didaché, entre parenthèses. Est conçu pour donner à celui qui participe, aux participants, une impression de solennité et de une crainte respectueuse. Je crois que la démarche est bonne, même si au bout d'un temps, on a tendance à s'éviter aussi, moins que pour la liturgie habituelle, puisque donc on prend la Sainte-Seine quand même beaucoup moins souvent. Alors, il y a ensuite les liturgies pour les occasions spéciales. Il y a des liturgies pour les grandes fêtes de l'année. La liturgie de Noël, le culte de Noël. La liturgie de Pâques, du Vendredi Saint en général. Il y a un culte le Vendredi Saint. La liturgie de Pentecôte. Voilà finalement les trois grandes liturgies. Et puis ensuite, évidemment, les cérémonies. La cérémonie du baptême qui, comme vous le savez, est accordée aux petits-enfants. Donc, qui rejoint en gros ce qu'on trouve dans l'Église catholique à ce niveau-là. Une liturgie de confirmation, dans ce sens que l'adolescent arrivé vers 14 ans, je pense qu'on a tendance, dans l'Église réformée, à retarder cet âge devant l'hémorragie que cela représentait. Et on a tendance à repousser aujourd'hui la confirmation à 16 ans, 15-16 ans. Alors, lorsque l'enfant donc, a terminé l'école du dimanche, vers une dizaine d'années, 10, 11 ans, 12 ans, il devient ce qu'on appelle catéchumène. Là, donc, il étudie la Bible, et au bout de cette étude, il passe un examen, par ailleurs, et si l'examen est favorable, il est déclaré apte à communier, donc à faire sa confirmation. Et tu peux dire qu'il faut vraiment être un âne triplement batté pour pouvoir, pour ne pas être reçu à l'examen en question, parce que évidemment, celui qui ne serait pas, qui serait refusé, ce serait un drame terrible dans la famille, parce que évidemment, comme chez les catholiques, la confirmation c'est l'occasion de cadeaux et puis d'une bonne
voyez ce que j'allais dire, en famille. Hein. Et alors, donc, le grand jour étant arrivé, et ça, c'est la Pentecôte, les catéchumènes confirment les vœux de leur baptême. Et puis à partir de ce moment-là, communient pour la première fois et sont déclarés membres de l'Église à part entière. En général, cette cérémonie émouvante est la dernière occasion où les catéchumènes mettent le pied dans l'Église jusqu'à leur mariage, et puis après, pour leur enterrement. Alors, il est évident que les réformés ont quelques scrupules maintenant et se posent un certain nombre de questions, sont un petit peu complexés à cause justement de cette situation-là. Ensuite, on a une liturgie particulière pour le mariage, liturgie qui d'ailleurs est à peu près celle que nous employons nous, puis évidemment une liturgie aussi pour les services d'animation que nous employons aussi parce que dans ces occasions-là, il faut tout de même un minimum d'ordre. On ne peut pas improviser dans ces choses-là comme pour le faire même dans un culte normal. Donc, si vous voulez, voilà comment se présente le culte dans les églises luthéro-réformées. Maintenant, à l'inverse de cela, vous avez évidemment toutes les tendances du monde évangélique que j'évoquais il y a un instant. Et la plus extrémiste dans ce sens-là, c'est le système d'abbistes. Les abbistes sont une union d'églises qui pense que le temps de l'église est terminé, que l'église a fait faillite, et que les abbistes, les frères et tous ceux qui se réclament donc un petit peu de la doctrine des abbistes, donc le temps de l'église est terminé, et nous sommes maintenant dans une période intermédiaire, dans l'attente du retour de Jésus, où il faut donc sortir de toutes les églises pour constituer des assemblées, on refuse le nom d'église pour prendre le nom d'assemblée, qui vivent tout simplement sans structure humaine dans l'attente du retour du Seigneur et dans une fidélité très précise à la parole de Dieu. Il faut rendre cette justice à nos frères, que très souvent ce sont effectivement des gens qui sont qui ont une grande connaissance de la Bible et qui sont très très fermes justement sur les doctrines de base de la Bible.